est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre.
La magnifique voix de Bruno Pelletier que j'ai contacté ce matin parce que Bruno, qui a interprété Gringoire dans cette grande œuvre Notre-Dame de Paris, qui est devenue d'ailleurs l'œuvre de Victor Hugo numéro un aujourd'hui, apparemment depuis l'incendie qui a ravagé ce monument historique qui touche toute la planète. Sincèrement, tout le monde est renversé par cet incendie qui a fait tomber la flèche. Vous l'avez vu. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pris au cœur, vraiment. Bruno Pelletier est avec nous. Bonjour, Bruno.
Hello, Isabelle.
Comment tu te sens aujourd'hui après toutes ces images effroyables qu'on a vues hier?
Ben écoute, je suis content de te parler ce matin parce que hier, quand j'ai vu ça, tu sais, quand on dit être sans mots, là, j'aurais pas voulu essayer de faire une entrevue hier. Mm. J'aurais pas su quoi dire tellement c'est gigantesque. Ce sont des monuments d'une architecture qui c'est magistral ce que l'homme a réussi à faire. Ça a traversé le temps. Bien sûr, il y a eu de la restauration, tout ça, mais ça reste que ce sont des choses qui, bon, on l'a entendu beaucoup, qui font partie du patrimoine de l'humanité. Puis oui, c'est la planète au complet qui pleure aujourd'hui. Quelque chose de grandiose qui s'est consumé hier sous nos yeux. Puis c'est sûr que moi, c'est drôle parce que je réécoutais le temps des cathédrales et les paroles que j'ai chantées des milliers de fois, que je chante encore d'ailleurs. Et j'ai fait des voyages comme touriste, comme tout le monde. Dans les dernières années, je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie, en France, et je suis retourné à l'intérieur de plusieurs cathédrales, dont celle de Notre-Dame de Paris, celle de Florence, celle de Malaga. Et tu te rends compte que le poids des mots que Luc a choisi sont si importants. C'est quand ça dit pierre après pierre, jour après jour, je veux dire, c'était des générations, des hommes, des bâtisseurs qui se donnaient les outils d'une génération à l'autre et leur savoir. On n'avait pas l'ingénierie d'aujourd'hui et commençaient des ouvrages qui ne voyaient jamais la fin de leur vivant. C'est quelque chose qui pour moi, m'a donné des vertiges quand j'ai visité ces lieux-là. Et c'est comme si la chanson, des années plus tard, reprenait encore tout un sens, tout un poids pour moi. Et donc, c'est sûr que là, hier, en voyant ça, j'étais complètement sous le choc. Puis je pense que je suis pas le seul. Tous les êtres humains sur la planète qui sont moindrement sensibles à la beauté ont été époustouflés là, hier, là, époustouflés de l'horreur de ce que c'est. Là.
Tout à fait. Mais c'est, tu vois, la réaction des gens, c'est de se tourner vers l'œuvre de Victor Hugo. Apparemment que sur Amazon, le roman est redevenu numéro un. C'est pas rien. C'est un symbole de quelque chose. C'est emblématique d'une certaine façon, mais cette œuvre-là.
C'est emblématique. C'est le cœur de Paris. C'est le cœur de la France, d'une certaine façon. L'île de la Cité et la cathédrale sont protégées par l'UNESCO. Ce sont des millions et des millions de personnes à travers la planète qui veulent voir ces symboles-là d'une époque qui date du 12e siècle, le commencement de tout ça. Donc, la symbolique est énorme, une perte comme ça. Et puis, je suis pas étonné que le roman reprenne le devant des palmarès. Maintenant, je trouve ça un peu triste parfois qu'on s'intéresse à l'art par sa perte ou par des catastrophes. Mais bon, si ça fait en sorte que des générations peuvent redécouvrir... Moi, j'ai lu le roman il y a 20 ans. Lorsqu'il a fallu que j'entre dans le spectacle, je voulais savoir... de quoi il en tenait exactement. Alors, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu le Notre-Dame de Paris de l'époque. J'étais abasourdi par la quantité de détails qu'il y avait dans la littérature d'Hugo. Après ça, bon, on a fait les chansons, on a fait l'œuvre, sa vie. Je pense qu'il y a les peintres, il y a eu tellement d'artistes qui ont célébré un joyau comme ça. Et c'est triste à quelque part que parfois ça prend une catastrophe pour qu'on se retourne vers des œuvres magistrales comme celle d'Hugo, mais bon, ça c'est la vie, là, c'est comme ça.
Merci beaucoup Bruno d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Enfin, je pense que ta chanson va jouer beaucoup dans nos cœurs et dans nos têtes au cours des prochains.
Ouais, il y a le dernier refrain qui dit « Il est foutu le temps des cathédrales ». Il y en a un paquet qui me l'a envoyé hier soir.
Exactement. Merci beaucoup Bruno Pelletier. Évidemment, nous, on avait prévu déjà faire une discussion que je vais vous proposer maintenant sur la religion et sur le processus d'apostasie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Bien, on voulait s'intéresser à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec à la veille. Dans quelques jours, ce sera le Pâques, hein, la symbolique de Pâques. Vendredi Saint, c'est ce vendredi. Bien, le jeudi, le vendredi Saint, le lundi de Pâques, il y a tout un processus que beaucoup d'ailleurs ont oublié parce que pour beaucoup de Québécois, c'est devenu finalement juste des congés. Hein? On va prendre congé, on va manger du chocolat, puis après tout, on oublie un peu la symbolique derrière ça. À tel point que pour beaucoup de gens, c'est devenu presque normal d'oublier, de pas célébrer et même de se retirer du processus religieux. C'est ça l'apostasie. Mais pour certains, c'est même encore plus spécifique. L'apostasie, c'est tenir son bout devant les catholiques, devant l'Église, et dire « moi, je ne veux plus en faire partie ». C'est Jordan Dupuis, entre autres, qui a entamé ce processus avec lequel j'en parlais dernièrement. Merci, Jordan, d'être là.
Merci, Isabelle. Je me sens un petit peu...
Oui, je sais que tu es retournée ce matin. J'ai vu ton post Facebook où tu disais « oups, là, finalement... » T'es-tu plus sûr? Là,
non, je encore...
Une cathédrale brûle et tout ton cœur est mystifié.
Mais c'est ça. Mais en fait, je suis encore extrêmement convaincu de mon désir de me retirer de la religion catholique et je le mentionne. Là, en ce moment, c'est un sujet qui est très, très sensible. C'est un processus qui est personnel. Je ne m'exprime pas au nom des apostasiés du Québec. C'est vraiment personnel. Mais reste que ce matin, quand j'ai vu le flot de commentaires sur Facebook, et j'ai été extrêmement touché, je le suis par le drame de Notre-Dame de Paris. On a tous braillé devant Notre-Dame de Paris. Je me suis senti un petit peu...
Cheapette.
Je me suis senti un peu peut-être baveux, tout ça. Et il faut se rappeler pourquoi on est triste. Est-ce que c'est par souci du patrimoine religieux, du patrimoine historique ou les deux, parce que ce patrimoine historique-là vient de la religion. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule.
Ben, c'est une très bonne question. Parlant de poule en chocolat, Alain Pronkin est avec nous parce qu'on s'est dit, Alain, merci d'être là. Notre référence, bien sûr, en matière d'affaires religieuses au 98.5. Il est chercheur au Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du Croire. Alain, tu connais bien tout ce qui concerne la religion, mais au-delà de ça, la spiritualité aussi t'intéresse particulièrement. Et mettre les pieds dans une église, une basilique, une cathédrale comme Notre-Dame, au-delà du fait croyant, il y a tout le symbole spirituel. Et puis, il y a l'apostasie en même temps. On regarde ça. Jordan vient de poser une question pertinente. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se sentir finalement meurtri d'une certaine façon, puis même que certains remettent en cause peut-être.
Oui. Mais au niveau de l'apostasie, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs qui peuvent justifier une demande. La première, c'est de dire, écoutez, maintenant, je suis complètement athée. Je ne pense pas revoir la foi un jour. Et en conséquence, je me retire complètement de cette église-là et je fais un acte d'apostasie. En Amérique du Nord, ça va bien, l'apostasie, on peut le faire, il n'y a pas de conséquences physiques. Mais dans certains pays du monde, si on renie la religion, il peut y avoir des conséquences physiques. Mais la deuxième motif, c'est de dire, écoutez, moi j'ai changé de croyance religieuse, disons, mais là, je ne veux pas revenir sur le cas Jordan, je peux pas être, écoutez, moi je suis de telle religion et je veux devenir bouddhiste. Et pour devenir bouddhiste, là je donne un exemple comme
ouais,
ça, je vais abandonner la religion catholique, je vais faire partie d'une secte religieuse quelconque. Et il y a aussi un autre motif, qui est celui de dire, je ne suis pas d'accord avec vos prises de position sur, disons, l'égalité des femmes.
Voilà.
Je ne suis pas d'accord
avec l'homosexualité.
Vos positions sur l'homosexualité.
Et ça, c'est plus ça, toi.
Moi, c'est vraiment un acte de rébellion face à cette religion-là. En ce moment, l'Église catholique compte, et là, je parle pour les catholiques, plus de 1,2 milliard d'individus là-dedans. Donc, c'est un poids qui est politique, c'est un poids qui est économique. Et moi, je ne vais pas du tout me compter parmi ces fidèles-là qui ne voit pas les hommes et les femmes de façon égale, qui condamne l'homosexualité, donc qui me condamne ce que je suis fondamentalement.
Ouais, c'est plus ça qu'ils viennent chercher, finalement.
Ben, c'est ça, les scandales de pédophilie qui n'arrêtent pas de sortir. Moi, je veux pas être identifié à cette religion-là.
Ouais.
Et je vois ça comme changer de banque. T'sais, on s'est toujours dit, je suis allé payer mes frais, mais c'est trop compliqué, je vais pas le faire. Et là, j'ai pris cette décision-là de le faire. Et c'est complexe.
T'as un formulaire.
J'ai mon formulaire d'apostasie qui est dûment rempli.
C'est compliqué remplir ça?
Ben, en fait, le formulaire est pas compliqué en soi.
Ça te prend c'est ton cerveau comme baptême.
Donc moi qui est né à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais baptisé à l'église Sacré-Cœur d'Iberville, ben quel diocèse, quelle église, quel jour. Alors évidemment, j'ai téléphoné à maman, j'ai dit ben maman, qu'est-ce qui se passe? Ben il a fallu que ma mère se présente à l'église Sacré-Cœur d'Iberville, une chance qu'on habite encore dans le coin, pour se faire faire un nouveau certificat de baptême qu'elle a probablement payé, faudrait je lui demande, ben pour ensuite me le donner et remplir ces informations là. Donc
c'est bien du trouble finalement.
C'est bien du trouble, et je comprends les gens qui décident de ne pas, mais moi je me sentais un peu hypocrite face à moi-même de continuer d'être compté dans ces fidèles là.
Mais tu vois, j'ai Jean qui m'écrit, dit que lui, il a envoyé une lettre enregistrée pour signifier son retrait de la religion catholique en 84. Là, je suis pas sûre que ça a marché, Jean, votre affaire, par exemple. Faudrait que vous nous rappeliez pourquoi, parce que normalement, c'est un formulaire officiel. Hein.
Il faut l'envoyer au diocèse en question. Et
Mais une lettre enregistrée, je suis pas sûre que ça...
Ben non, c'est pas un huissier. Là,
j'ai jamais regretté ma décision, même pas une seconde. Les événements que nous connaissons aujourd'hui par les médias me donnent raison. Il y a Luc qui me dit, j'ai apostasié la semaine où le pape... C'est même un verbe?
Oui.
J'apostasie. Où le pape est allé en Afrique ordonner à ses sujets de ne pas utiliser la contraception. Il dit, la Chine s'est développée avec la politique de l'enfant unique. C'est ma filleule qui a co-signé mon formulaire. J'ai co-signé le sien. On trouve que l'Église actuelle est trop cruelle et que ça l'y rejoint plus, finalement. Oui. Il y a eu beaucoup de... Plein de gens m'ont écrit là-dessus depuis hier, là, sur l'apostasie, Alain.
Mais au niveau de l'apostasie, il y a aussi des vagues. C'est-à-dire, au moment où le pape... Là, c'était, on parle du pape Benoît XVI, est allé en Afrique, il a dit, non, on n'a pas besoin du condom, puis c'est l'abstinence
qui était épouvantable de dire ça, là.
Le sida. Oui,
ça pas de sens.
Et à ce moment-là, il y a eu des vagues d'apostasie. C'est-à-dire que dans le diocèse de Québec, parce qu'on tient peu de statistiques de ça, on était monté à environ 300 apostasies cette année-là, alors qu'année après année,
il y en a combien?
20 à 30.
Et aujourd'hui, là, par exemple, en 2000.
Aujourd'hui, on est peut-être à 30-40. Peut-être qu'il va en avoir plus parce qu'il vient d'avoir tout le scandale des prêtres pédophiles, les positions sur l'homosexualité. Est-ce qu'il va en avoir plus? Peut-être. Mais on remarque que c'est des vagues. De l'autre côté, il y a les baptêmes. Je pense qu'on parle d'à peu près de 400 baptêmes par année. Donc, il y a un peu plus de baptêmes que d'apostasie, mais il y a des apostasies. Mais l'apostasie, il faut vraiment le voir vraiment de plusieurs dimensions. Et celle à Jordan justifie de dire, moi, je conteste. Et de toute façon, il va peut-être dire, même comme laïc, c'est quoi mon poids dans cette église-là? Je ne suis pas un cardinal, je ne suis pas un évêque, je ne suis jamais invité dans les synodes. Est-ce qu'on va vraiment prendre acte de ce que j'ai à dire? Peut-être jamais, mais peut-être qu'à l'extérieur de l'église, je peux contester.
Ouais. Moi, j'avais une question, on se posait tous la question avec l'équipe hier. Le phénomène d'apostasie, est-ce que ça touche que l'Église catholique, les chrétiens, ou ça peut être apostasier de n'importe quelle religion?
Ben, de l'Église, chez les orthodoxes, la même chose. Dans l'islam, la même chose.
Donc, l'Église traditionnelle.
L'Église traditionnelle, on peut dire, je suis contre vos prises de position sociales, écologiques. Il y en a 10 000
Ça touche pas que les catholiques.
Ça ne touche pas que les catholiques. Dissociation de la religion. Je connais des gens qui souhaitent se dissocier de l'islam. Ben, ils peuvent pas parce que ça va créer du soleil dans la famille.
Pas une bonne idée.
Non, ça, c'est plus tough, je dirais. Mais moi...
C'est pas une bonne idée pour les répercussions.
Les répercussions sont...
Exactement. Et surtout lorsqu'on vient d'un pays où l'islam est partie prenante du système politique, etc.
Mais donc, dans ton cas, prévois-toi pas un petit voyage en Iran, là, Jordan.
Non, assurément. Et peut-être me faire garrocher des roches en sortant d'ici parce qu'il reste que...
D'ici, non, ça m'étonnerait beaucoup. D'ici, parce non, que... mais là-bas, oui.
Ben, il reste, Isabelle, que la religion est quand même présente encore au cœur des Québécois. Je veux dire, moi, d'avoir ce petit sentiment-là de culpabilité, c'est un fond un petit peu catholique. Et moi, en fait...
Par rapport à l'église Notre-Dame qui a brûlé.
Ben, par rapport à mon rapport complexe avec la religion, il faut dire...
Oui, parce que tu vois une église brûler, puis ça t'émeut.
Ben oui, puis je veux dire, je suis comme, OK, mais c'est pourquoi j'ai la larme à l'œil, tu sais, c'est-tu à cause de
Quasimodo? Est-ce que c'est cette église-là, en particulier, d'après vous, Alain?
L'ensemble
qu'est-ce que
des
ça t'a fait, toi?
Moi, quand j'ai vu, c'est décourageant, parce que moi, j'ai une vision qui est beaucoup plus de mémoire collective. Moi, ce que je vois quand je vois une église qui ferme, puis il y a plein d'églises qui sont fermées ou qui sont détruites, c'est que je vois des gens qui se sont mariés, je vois des funérailles, je vois des familles qui se sont rassemblées dans ces lieux-là, parce que c'est d'abord ça. C'est ça, des gens qui se rassemblent et qui disent, ben là, c'est fini, c'est toutes ces mémoires-là qui s'effacent.
Et c'est drôle parce que...
Et c'est ça qui fait que c'est difficile.
Et t'as raison, parce que depuis hier, par rapport à Notre-Dame, c'est ce qu'on ressort. On ressort tous ces événements qui ont eu lieu dans ces murs. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Napoléon, entre autres. Et tu sais, le sacre de Napoléon s'est fait là. Je veux dire, il y a eu plein d'événements importants, historiques.
Mais c'est la vie qui est là. Ouais. Je vais donner un exemple. Dans une cathédrale, à l'époque, écoute, tu as 9000 places pour des êtres humains qui se présentent là. Ouais. Pourquoi c'était si immense? Et puis là, on est dans les années 1200. C'est parce que les chevaux entraient dans les cathédrales à cette époque-là. On allait coucher, c'était vraiment comme un hôtel. Les gens se rassemblaient. On allait faire ça, on allait faire ça. Et c'était les premiers grands lieux de rassemblement. Il n'y avait pas d'hôtel, des chaînes,
tout
d'hôtel,
ça n'existait pas. Tout ça, Alain, j'honore ça, je trouve ça extraordinaire. C'est juste que lorsque je vois des chrétiens, des catholiques en train de pleurer, parfois, c'est là que moi, ça m'irrite. Et en fait, à date, moi, je me fais apostasier. Pourquoi? Parce que j'ai été baptisé contre mon gré. On m'a imposé une religion dès la naissance.
Mais on nous impose bien des affaires.
Ah, puis ma mère est tout à fait d'accord avec mon apostasie, mon père avec. Et pour moi et ma famille, la religion n'a fait que des dommages. Et sans nommer cette personne-là dans ma famille, elle a été victime d'abus de la part des curés, etc. Donc, on a un rapport très complexe. Et en 82, on baptisait tout le monde. Donc, faut comprendre que lorsqu'on... Si on se fait apostasier, c'est qu'on a été baptisé. Donc, de faire baptiser son enfant, c'est de le faire entrer dans la grande famille de Dieu. Alors moi, quand je vois des jeunes de mon âge qui font baptiser leur enfant, qui sont aucunement croyants, mais qui le font par souci.
Ils font,
de moins en moins, ceci étant dit, dans mon cercle social, de moins en moins. Mais je me dis, OK, pourquoi le fais-tu? Tout comme le mariage en blanc dans une église. C'est-tu juste pour ta photo Instagram? Donc, c'est tout ça. Moi, c'est ce rapport.
Je dirais oui.
Je pense
que le monde font ça parce que c'est cute, c'est beau.
Oui, mais il y a une portée à ce geste-là.
Ouais, sans doute. On va s'arrêter ici. Il y a tellement de choses à dire. Beaucoup de gens veulent intervenir. On va vous donner la parole tout de suite après. On parle d'apostasie. Je sais qu'il y en a de plus en plus au Québec, là, parce que visiblement, j'ai reçu plein de courriels, de témoignages, même sur Messenger, de gens qui me disaient qu'ils voulaient parler de ça. 514-790-9850. Faites-vous baptiser vos enfants, parce qu'il y a un lien entre les deux. 1-866-790-9850. On s'interroge sur notre foi et c'est intéressant d'avoir cette discussion-là au lendemain de l'incendie qui a failli complètement ravager, qui l'a presque tout ravagé. En fait, vous avez vu, il reste la façade de l'église Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Évidemment, tout ce qui est en bois, ce qu'on appelait la forêt, là, qui était en très hauteur, là, qui... Finalement, avec la flèche au-dessus. Moi, quand j'ai vu la flèche tomber hier, je vous avoue, j'ai eu comme un petit serment au cœur parce que même sans croire en Dieu et sans avoir fait baptiser mes enfants, chaque fois que je vais à Paris, puis j'y vais dans une couple de semaines, j'allais systématiquement à Notre-Dame. C'est comme un pèlerinage, non religieux, simplement historique. C'est comme une tradition. C'est comme mais chez nous, c'est pareil. On a des magnifiques églises qui représentent des lieux de recueillement. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui on parle d'apostasie en même temps aujourd'hui. On s'interroge sur le fait que de plus en plus de Québécois sentent ce besoin-là de se retirer de l'église. Ça n'empêche pas que Jordan, par exemple, mon invité, qui est là-dessus dans ce processus-là, t'as une spiritualité. Vivante. Là. La religion n'a pas de monopole non plus des bonnes valeurs.
Ben non, exact. Et j'ai une spiritualité. Je veux dire, ça m'arrive de prier, puis prier de façon... Et je ne sais même pas à qui je prie. T'sais, souvent, je pense aux gens qui sont décédés. Je crois à une certaine forme d'énergie supérieure. J'aime penser que quelqu'un me regarde, que ce soit ma grand-mère, que ce soit des amis qui sont décédés. Je demande quelque chose à l'univers.
Tu veux juste pas être dans la clique du bon Dieu.
Exactement. Puis tu sais, et puis quand je suis allé à Notre-Dame de Paris, j'ai acheté les médaillons protecteurs parce que ma grand-mère les avait. Ça m'a fait penser à grand-maman. Je les ai achetés. Donc il y a ce fond là en moi, mais c'est comme toi, Isabelle. C'était très spirituel plutôt que religieux. Je pensais pas. Je me suis posé
la question. Est-ce que les gens font encore baptiser leurs enfants? On a Claude qui est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, je suis non religieux depuis toujours et j'ai fait baptiser mes enfants parce que je voulais leur donner cette carte-là si jamais ils voulaient se marquer ou s'ils avaient besoin de ça. Mais autrement, je suis non spirituel même. Puis, juste au niveau d'une parenthèse, je trouve que la Notre-Dame, c'est un drame au niveau de l'histoire et de l'architecture, mais au niveau de la représentation spirituelle ou religieuse, pour moi, c'est rien.
Pour vous, c'est...
Pour moi, ça change rien.
Ah oui, d'accord. OK. D'accord. Merci, Claude.
Mais j'aime l'architecture. Je vais visiter des églises. Je ne vais jamais dans une cérémonie religieuse, soit mariage, baptême, défaite. Mm-hmm. Mais je trouve les architectures des églises sont extraordinaires.
Mais c'est intéressant quand même pour vous. Vous dites, c'est quand même fascinant. Vous dites, je voulais quand même donner à mes enfants cette carte-là. Donc, on pense encore aujourd'hui, en 2019, qu'il peut y avoir une valeur à être un catholique qui a été baptisé. C'est quand même intéressant, Alain.
Oui. Le mariage, parce que bon, on parle du mariage actuellement avec le baptême, mais si on parle d'un acte d'apostasie, Jordan ne pourra même pas avoir de funérailles dans une église catholique.
Eh bien, sais-tu comment ça me dérange? Comment faire ça dans un rave? Non, mais je trouve que c'est moi, j'ai fait tout le processus de la confirmation. Ça nous tentait pas, ma famille et moi, d'y aller. J'étais pogné pour y aller au coq.
Ouais. C'est drôle parce qu'il y a Charles-Pierre qui m'écrit, il a fait une demande d'apostasie en 2007 au diocèse de Sherbrooke. Il a trouvé un formulaire Word sur le net. Il a envoyé une réponse en disant, ils ont fait vraiment peur. Ils ont dit, là, vous savez, monsieur, vous ne pourrez plus jamais revenir. Fait qu'il a dit, ça ne me dérange pas. Et là, le diocèse a finalement répondu, bon, ben, on vous a apostasié, mais en tout cas, si vous voulez revenir, on est bien accueillant. Fait qu'il dit, bon, m'ont fait peur. Puis finalement, ensuite, c'était la bienveillance et l'accueil. On a Daniel avec nous. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Moi, j'ai 3 enfants que j'ai pas fait baptiser. Mm-hmm. Je me suis pas mariée à l'église. Moi, j'ai été baptisée dans les années 60, là, parce que tout le monde était baptisé.
Ouais.
Et ma première enfant, en 89, c'était pas encore à la mode. Je vous dis que j'étais à peu près dans les seuls que je connaissais que ses enfants n'étaient pas baptisés. Mais en même temps, je me disais que je leur imposais quand même mon choix. On leur impose le choix d'être baptisé, mais moi, je leur imposais mon choix de ne pas les baptiser.
C'est sûr. C'est toujours c'est intéressant comme question. Me la supposer, moi aussi. C'est une responsabilité.
Et en vieillissant, mes enfants, à l'époque, c'était encore par l'école que ça faisait tous les trucs religieux. Mm. Et à un moment donné, j'avais offert à mes enfants de pouvoir se faire baptiser. Bon, finalement, j'ai fait un processus avec eux.
Et ils ont choisi de se faire baptiser?
Non, ils ne se sont pas fait baptiser finalement.
Ah bon?
Mais en même temps, comme qu'ils viennent de mentionner, c'est certain que je me pose la question. Bon, je souhaite pas que mes enfants partent avant moi, mais la journée qu'il arrive quelque chose, c'est certain que tout nous amène tout le temps, je veux dire, les mariages. Les
oui, baptêmes, mais vous savez, maintenant, moi, j'ai assisté à des funérailles un peu trop fréquemment l'année dernière et je peux vous dire que c'était, entre autres, j'ai assisté à 3 funérailles, c'était 3 célébrations spirituelles qui ont été dans des lieux qui pouvaient s'apparenter à une église, qui n'était pas une église officielle, mais c'est célébré par un prêtre, d'ailleurs. Mais des prêtres, vous savez, plutôt ouverts. Le prêtre version 2019, là, qui fait des blagues sur Jésus qui marchait sur l'eau, mais qui, bon.
J'adore ça.
Il y a autre chose maintenant, oui. T'sais. Inquiétez-vous pas quand vous allez mourir,
c'est ça.
Ça va bien aller. On a Réjean. Bonjour, Réjean.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, regardez, moi, je suis né en 1956.
Oui.
Et puis, quand je suis né, ma mère et moi, je suis comme décédé à la naissance. Ma mère était sur le bord de mourir. Et puis, curé était sur place là, quand c'est arrivé. Et puis, j'ai été baptisé. Et puis, j'ai eu l'extrême-onction dans la minute qui ont suivi parce que j'étais mort, en fin de compte. Puis, la garde du chemin qui m'a sauvé la vie. Elle m'a ressuscité à ce moment-là. Et puis, moi, à l'âge de 12 ans plus tard, j'étais très, très bien compris que toute la religion, c'était la plus grande mascarade, c'est le plus grand fléau que j'ai jamais eu sur la planète. Mm-hmm. Fait que moi, je me suis mis à étudier. J'ai 62 ans, ça fait 50 ans que j'étudie toutes les religions sur la planète. J'ai décortiqué la Bible et le Coran, mot à mot, et plusieurs autres, là, mais... Fait que je pourrais vous en parler pendant des
Mais donc, vous avez été apostasié, là. Vous avez choisi de voir, ouais.
Oui, mais regardez, en 1989, mon fils est né. Ma famille, tout ça, c'est sûr que tout le monde avait été baptisé par la force des choses. Quand mon fils est né, moi, je ne voulais pas le faire baptiser, mais pour la tradition, vu qu'il n'est pas en état de comprendre, ben je l'ai fait baptiser pour faire plaisir d'un certain sens à toute ma famille.
Ouais.
Et puis, quand il était assez vieux, vers l'âge de 14-15 ans, c'est lui-même qui m'est arrivé avec l'apostasie.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, c'est beau. Fait qu'est-ce qu'on a fait?
Ouais.
Moi, mon épouse et mon fils, on a fait venir les formulaires d'un organisme au Québec je fournis le formulaire gratuitement.
Oui, oui, ça se trouve, hein, Jordan, exactement tout à fait, ça, merci beaucoup. Oui.
Mais on sent vraiment la pression sociale.
Mais là, écoute, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il y en avait encore autant, mais bon, mais merci beaucoup d'avoir parlé de ça, sincèrement.
Et puis, j'ai besoin de deux témoins pour mon formulaire d'apostasie.
Ah, on va signer ça avec plaisir. Tellement, pendant la pause, pendant que notre prochain invité s'avance, l'humoriste Martin Petit, qui va nous parler de son retour sur scène, on va signer les papiers d'apostasie. Ouais,
ça coûte 20 piastres, ces papiers-là.
Oh, ben là, on les signe, mais on les paye pas. À tout de suite.